Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va entamer une plongée au cœur de nos sources et littéralement descendre dans les entrailles de la Terre.
Ouais, préparez-vous, ça va être sombre.
C'est ça. Notre mission du jour, c'est de comprendre l'ingéniosité vraiment vertigineuse du bassin minier de Decazeville.
Tout à fait.
Et pour ça, on s'est fixé une contrainte stricte, très stricte même. On va se concentrer exclusivement sur un seul article.
Un article qui est absolument fascinant d'ailleurs.
Absolument. Il s'intitule sobrement « Les puits de mine ». Mais avant même d'aborder le contenu, il faut vraiment qu'on parle de ceux qui ont créé ce document.
C'est indispensable, oui. L'auteur, c'est Alain Bournounesque.
C'est pas n'importe qui.
Bah non, c'est un ancien dessinateur géomètre au bureau des plans à Decazeville. Donc c'est quelqu'un qui a l'expertise géométrique parfaite de ce milieu.
Et il faut ajouter une mention très spéciale pour Guy Mazard.
Ah oui, le rédacteur en chef.
Voilà, rédacteur en chef et concepteur de la mise en page de cette superbe publication du Carte Club Aveyronnais. Son travail d'édition est central ici.
Du coup, pour bien planter le décor, il faut imaginer un trou noir. Un cylindre exigu qui plonge à pic jusqu'à 465 mètres sous terre.
C'est ahurissant quand on y pense.
C'est un monde où l'erreur pardonne pas. La machinerie y règne et c'est fondamentalement hostile à l'homme.
Bon, décortiquons tout ça. Moi, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est le nombre. Il y avait plus d'une centaine de puits dans le bassin.
C'est énorme. Alain Bournounesque les catégorise très bien d'ailleurs. Il commence par les puits boisés.
Les plus anciens, on va dire.
C'est ça. Ils sont rectangulaires ou carrés. Pas très larges, 2 à 4 mètres de côté.
Et niveau profondeur, on est sur quoi?
Assez peu profond par rapport à la suite. 50 à 60 mètres. Et la particularité, c'est le blindage.
Pour éviter que tout s'effondre, j'imagine.
Exactement. Ils utilisaient des rondins locaux qu'ils appelaient des cadres. Du chêne, du châtaignier ou de l'acacia.
Du bois très résistant.
Oui, parce que la pression de la terre est constante.
Et alors, il y a un détail mémorable dans l'article, un dessin incroyable d'un équipement, le CUFA.
Ah, le CUFA, oui.
C'est une sorte de grand tonneau en tôle, non?
En fait, c'est exactement ça. Un gros tonneau soutenu par un chevalement hyper sommaire en surface.
Et ça servait à descendre les mineurs?
À descendre les hommes et à remonter les déblais.
Franchement, faire la navette dans un tonneau suspendu à un fil, c'est presque comique si c'était pas aussi effrayant.
L'angoisse devait être totale, surtout sans véritable guidage.
Ça nous amène vite aux infrastructures plus massives d'ailleurs.
Bah, la production exigeait d'aller plus bas et plus vite, donc on passe aux immenses puits circulaires.
Beaucoup plus larges du coup.
Oui, on passe de 3 à 6 mètres de diamètre. Et là, le revêtement qu'on appelle le cuvelage n'est plus en bois.
C'est de la brique.
De la brique ou du béton carrément. Et c'est avec ça qu'on bat des records. Le puits de l'éclair à Combes par exemple.
465 mètres?
465 mètres de profondeur, oui. C'est le record. Et l'auteur mentionne aussi des puits hyper spécialisés.
Comme les barrières.
Voilà les barreurs, ce sont des puits intérieurs qui relient les étages entre eux sans remonter la surface, creusés directement dans la roche stérile.
C'est de l'optimisation pure. Et il y a aussi ce puits à Combes qui est ovale.
Un puits ovale en ciment dédié uniquement à l'exor.
Le pompage de l'eau.
C'est ça. S'il ne pompait pas l'eau d'infiltration, la mine était noyée.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. On a des trous de 400 mètres, des cages gigantesques qui remplacent les tonneaux. Comment on empêchait ces cages de s'écraser au fond?
L'article décortique un mécanisme de sécurité qui est génial. Déjà, les cages glissent pas dans le vide.
Elles sont guidées.
Elles glissent le long de guides en bois très très résistants. Et ces guides sont fixés sur ce qu'on appelle des moises.
Des moises horizontales?
Oui, des traverses. Mais le clou du spectacle, c'est le système d'attache de la cage.
Le fameux parachute.
Exactement. Vous avez une grosse chaîne principale au centre et 4 chaînes de secours autour.
Et si la principale casse?
C'est là qu'est le coup de génie. Si la chaîne principale cède, la perte de tension détend un énorme ressort sur le toit de la cage.
Qui libère les mâchoires.
Voilà, 2 énormes mâchoires métalliques crantées qui viennent mordre violemment les guides en bois.
C'est un freinage d'urgence un peu rustique, mais quand on lit ça, on a un vrai moment de révélation.
La friction broie littéralement le bois, mais la cage s'arrête net. C'est brutal, mais vital.
C'est de la physique pure au service de la survie. Et ces cages, elles n'arrêtaient pas de faire des allers-retours.
C'est le système du va-et-vient, un balancier permanent.
Une cage descend, les wagonnets vides, pendant que l'autre remonte la houille.
C'est ça. Et c'est des charges colossales. 6 berlines réparties sur 2 niveaux dans une seule cage.
Pour gérer tout ça, il fallait des points de chargement hyper stables. Ce qu'ils appellent la recette.
La recette, oui. Que ce soit au jour, en surface ou au fond. Et pour stabiliser cette cage élastique au bout de son câble, ils utilisaient des taquets.
Des grosses caisses métalliques sur lesquelles la cage venait se reposer.
Exactement, pour que les mineurs puissent pousser les berlines sans que tout bascule.
En lisant tout ça, on se rend compte d'une chose. Le puits, c'est pas du tout juste un ascenseur.
C'est vraiment la colonne vertébrale de l'exploitation.
C'est l'épine dorsale, oui. L'article détaille tous les réseaux vitaux qui tapissent l'intérieur du puits.
C'est de la plomberie et du câblage à l'échelle industrielle. On a parlé de l'exor tout à l'heure.
Le tuyau qui remonte l'eau depuis tout au fond.
Depuis les albraques, oui, les bassins de décantation. Mais il y avait aussi l'eau potable.
Qui servait pas qu'à boire, d'ailleurs.
Non, ça servait surtout à alimenter les marteaux perforateurs et à arroser la poussière de charbon.
Pour éviter les explosions et la silicose ?
Absolument. Et à côté de l'eau, on a l'électricité. Des câbles à haute tension qui descendent.
Pour alimenter quoi ?
Les pompes, les convoyeurs et les haveuses mécaniques qui attaquaient la roche.
Donc on a l'eau, l'électricité et il manque le système nerveux, la signalétique.
Indispensable. Le treuilliste en surface ne voit rien de ce qui se passe à 400 mètres sous ses pieds.
Il faut communiquer.
Au début, c'était des cloches, reliées par des câbles mécaniques.
Le moindre faux mouvement et c'était l'accident.
Oui, c'est pour ça qu'ils sont vite passés au voyant électrique. C'était essentiel pour sécuriser le mouvement des cages.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand on est à la surface ? Parce que toute cette activité souterraine, ça devait bien se voir dehors.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact visuel.
Les chevalements.
Les fameux chevalements. Et c'est là que le travail éditorial de Guy Mazars prend tout son sens.
La collection iconographique qu'il a choisie est sublime.
Elle montre ces immenses structures métalliques, souvent à quatre montants, qui dominaient les puits.
On navigue vraiment à travers les époques avec ces illustrations. Il y a par exemple la reproduction d'un tableau de L. Sabatier de 1886.
La recette du jour.
Voilà, c'est pas juste du métal, c'est une scène qui grouille de vie. On voit le personnel qui s'affaire autour des berlines.
L'humain au milieu de la machine.
Exactement. Et puis on a cette fameuse carte postale du puits de Vielle-Rels.
Ah oui, celle-ci est très touchante.
Il y a une note manuscrite dessus. Quelqu'un a écrit à la plume dans le ciel de la photo. Excuse-moi si je ne puis.
Ça ramène de la banalité quotidienne sur une image d'industrie lourde. C'est le contraste parfait.
Et niveau architecture, l'article montre des choses très atypiques. Comme le puits guidé à Combes.
Oui, alors lui, c'est l'exception. Le puits ovale n'est pas à l'air libre. Il est caché à l'intérieur d'un immense bâtiment.
On ne disait même pas une mine de l'extérieur.
C'est un choix architectural très rare.
Et ensuite, on a la comparaison entre le puits de Bourran et le puits Alfred.
Là, on touche à la physique d'échevelement, la symétrie.
Les fameux poussards.
Oui, parce que le câble tire en biais vers le treuil. Donc, il faut d'énormes piliers de renfort côté treuil pour pas que la tour bascule.
Les poussards. Et sur la carte du puits Alfred, l'auteur précise qu'il y a une petite annotation au crayon.
Une date, 1883 pour sa construction.
C'est fou comme ces petits bouts de papier documentent l'histoire technique.
Et ça culmine avec la vue du puits numéro 1 à Syrie de France, à Cransac.
Majestueux.
C'est le mot. Il a un type de chevalement qu'on appelle avec avant-carré porteur. C'est un enchevêtrement métallique impressionnant.
Franchement, cet article de M. Bourrionesque, mis en valeur par M. Mazars, ça change tout. Ça nous prouve qu'un puits de mine, c'est pas juste un trou dans la roche.
Loin de là.
C'est une merveille d'ingénierie. Une ville verticale, avec son système nerveux, digestif et respiratoire.
C'est une très belle métaphore.
L'accumulation de ces connaissances modifie complètement notre perception d'un paysage qui pourrait sembler banal aujourd'hui. On ne marchera plus jamais sur les terres de Decazeville de la même manière.
Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est vrai que la préservation de cette mémoire technique est vitale. Ces infrastructures étaient titanesques.
Ça force le respect.
Mais pour clore cette exploration, j'aimerais qu'on aille un peu au-delà de l'ingénierie visuelle.
Une piste de réflexion ?
Oui. Imaginez l'acoustique infernale à l'intérieur de ces puits.
À 400 mètres de profondeur.
Dans un cylindre fermé, oui.
L'écho assourdissant des trompes d'eau dans les tuyaux d'exor.
Les sonneries stridentes des cloches de signalisation qui n'arrêtent jamais.
Le grincement permanent des guides en bois sous la friction des cages. Et le fracas métallique quand les cages se posent sur les taquets.
C'est ça. Comment ce paysage sonore, cette véritable symphonie industrielle terrifiante qui réverbère dans l'obscurité, a pu façonner la psychologie de ces hommes.
Ceux qui plongeaient chaque jour dans le noir total.
Voilà. C'est une piste fascinante à explorer mentalement.
Une réflexion saisissante pour terminer cette analyse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée vertigineuse et à très vite pour une nouvelle exploration.